Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Aurélie Garand autour de son livre « Depuis qu'ils nous ont fait ça » paru aux éditions du Bout de la Ville. Le 12 mai 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus, vraiment désolé, on a eu quelques soucis, enfin, on a commencé un petit peu en retard. Ce soir on présente le livre « Depuis qu'ils nous ont fait ça » de Aurélie Garand, vraiment merci beaucoup d'être venus. Ce sixième anniversaire un peu triste, enfin, vraiment, merci beaucoup de venir présenter ce livre. C'est paru aux éditions du Bout de la Ville et la rencontre sera modérée par Manu des éditions du Bout de la Ville et Christa du comité éditorial du bouquin. Vraiment, merci beaucoup et bonne rencontre.
Alors bonjour et merci d'être là. Je suis Aurélie Garand, la sœur d'Angelo. Je vous remercie d'être là et de lire ou d'avoir lu mon livre. Il était important pour moi en fait de l'écrire après 6 ans, après la mort de mon frère. J'avais besoin de dire tout le racisme d'État. En fait, mon frère, il a été tué le 30 mars. Ça l'a fait 6 ans, le 30 mars. Il a été tué par une antenne du GIGN. Il a pris 5 balles dans le thorax. Il avait 37 ans. Il avait 3 enfants. Il avait... parce qu'il n'est pas retourné en prison en septembre 2016, en fait. Angelo, il a été beaucoup condamné. Il est rentré à l'âge de 22 ans en prison pour des délits mineurs. Ça a commencé par des conduites sans permis, après des vols. Et toute sa vie, il a passé beaucoup de temps en prison. Et au mois de septembre 2016, la prison de Poitiers lui donne une seule journée de permission pour les liens familiaux. Mon frère décide de ne pas rentrer. Pendant 6 mois, mon frère ne se cache pas. Il vit dans sa voiture. Il va voir sa famille. Il profite de la vie. Et le 30 mars 2017, il vient pour manger chez mes parents. Et vers 13h, on a une équipe du GIGN qui arrive et qui fait une prise d'assaut, en fait, qui éclate les portes, qui met toute ma famille à terre. Mon frère, par instinct de survie ou de liberté, il se cache juste dans une petite remise. Et ils ont menotté mes parents, il y avait mon fils de 3 ans. Et à aucun moment, ils ont demandé où mon frère était. Ils étaient prêts à repartir. Mon frère, il a fait un petit bruit dans cette remise et on a 5 hommes du GIGN qui s'est précipité. Et ils ont aussitôt tiré sans sommation. Ils ont visé les organes vitaux de mon frère. 5 balles dans le torse de mon frère. Alors aussitôt, on s'est constitué partie civile. On a engagé les procédures judiciaires pour avoir la vérité, la vraie vérité. La vérité, c'est que c'est une exécution. Il y avait mon père. Mes parents, ils étaient même pas 5 mètres. Ils n'ont rien entendu, à part des coups de feu. Et on s'est battu depuis 6 ans, même si on n'a pas eu justice. parce qu'on a eu des non-lieux avec un article de loi, un permis de tuer, en fait, qui est accordé aux flics systématiquement. On s'est battu pour avoir justice, on n'a pas eu justice, mais à partir du livre, depuis qu'ils nous ont fait ça, on a la vérité. Et c'est tout ce qui m'importe maintenant, d'amener la vérité dans la société civile. Et à travers, depuis qu'ils nous ont fait ça, eh ben on voit que c'est pas à partir de la mort d'Angelo qu'on nous a fait ça. Parce qu'on appartient à la communauté des gens du voyage. Et en fait, c'est depuis que je suis née qu'ils nous ont condamnés à ça. Et en fait, d'avoir condamné mon frère à mort, c'est un truc, c'est une chose que, pour laquelle je me bats, en fait. Pour plus que ça arrive. Parce que j'ai plus rien à gagner, mais j'ai plus rien à perdre. Il était mon grand frère, il est le père de mes neveux, de mes nièces. Et merde, il était un humain. Et des fois, je me retrouve à dire, Angelo, c'était pas un tueur. Mais même qu'Angelo serait un tueur, c'est pas la justice française. La peine de mort devrait être abolie. Officiellement, c'est comme ça qu'on nous vend la chose dans notre pays. Donc voilà pourquoi on est là et je vous remercie.
On s'était dit que c'était Aurélie qui allait un peu expliquer le début et pourquoi elle est là, même si c'est jamais très simple d'encore et toujours refaire l'histoire. Mais que c'était quand même comment dire, une manière de mettre les pieds dans le plat et d'un peu commencer par le début. Mais ce que tu dis pas quand tu racontes cette histoire, qui est beaucoup aussi l'histoire de ton frère, c'est qu'en fait, avant, t'écrivais pas des livres, quoi. Et que là, il y a pas longtemps, donc c'était en novembre dernier, il y a ce bouquin qui est sorti, et dans lequel, ce livre, il s'ouvre sur... quand vous apprenez la mort d'Angelo et quand il y a la veillée pour lui. Mais en fait, au fur et à mesure du livre, et on va pas mentir, en fait, ce livre, on l'a fabriqué ensemble, tous les trois, même si c'est Aurélie qui l'a fait. Et en fait, quand on décide de faire ce livre ensemble, en fait, toi, tu nous dis que tu veux parler d'Angelo, mais tu te mets à raconter pas du tout que l'histoire d'Angelo. C'est aussi ton histoire et c'est aussi l'histoire, du coup, de ta famille et même de plein d'autres personnes à qui, en fait, il y a eu plus ou moins la même injustice qui a été faite, même si c'est pas la même histoire.
En fait, dans ce livre, il fallait raconter tout ce qu'on a vécu, mais qu'on n'était pas tout seul et que c'est pas, ça débute pas à la mort d'Angelo comme ça, en fait. C'est, on a rencontré depuis 6 ans, j'ai rencontré plein d'autres familles de victimes. Il y a beaucoup trop de personnes tuées injustement, sans justice et dans des conditions horribles. Il fallait parler de la prison, il fallait parler. De parler de tout ça, quoi, de dire pourquoi, à quoi, comment on en arrive à la mort d'un homme comme ça, en fait. Comment on arrive à rendre des décisions de justice comme ça. Comment la première vidéo que j'ai faite, elle s'appelait « Pourquoi tout ça ?» Bon, en fait, pourquoi tout ça, ce que ça a toujours été, mais maintenant, on dit ce qu'on a à dire et on veut dénoncer et on veut prendre tout le monde à témoin pour qu'ils soient... qu'ils prennent parti, quoi, parce que on a le droit de vivre.
Peut-être pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, parce que tu as fait le truc vraiment très très rapidement, mais est-ce que tu peux juste revenir sur le parcours judiciaire en fait, de votre histoire, où est-ce que vous en êtes maintenant? Parce que tu dis on n'a pas eu de procès, mais du coup ça s'est passé comment en fait exactement ce truc?
Maintenant on est à la Cour européenne des droits de l'homme, on attend, on est, comme j'explique dans le livre, en négociation, ils appellent ça, parce que chaque année en fait on a une décision de justice qui allait contre la vérité, contre un procès. Les non-lieux, ils ont été décidés dans des bureaux par un procureur, des juges. Jamais ma famille qui était présente, ils ont eu le droit à la parole. Et un non-lieu, ça veut dire... on a l'habitude de dire un non-lieu, c'est comme s'il ne s'est rien passé. Mais en fait, le non-lieu pour Angelo, c'est si il s'est passé ça. Si ton frère, il a pris... Angelo, il a pris 5 balles visées dans le torse par des hommes du GIGN. Et ça, c'est légal. On est à la Cour européenne des droits de l'homme. La dernière, il n'y a plus de recours possible pour nous en France. C'est-à-dire que les tueurs d'Angelo, jamais ils répondront de leurs actes. Jamais ils viendront devant mes parents. Jamais ils viendront devant nous dire leurs mensonges. Parce que, en fait, c'est un dossier judiciaire, comme toutes les familles victimes, comme tous les tués par l'État. C'est un mensonge énorme, en fait. Tout pour Angelo, la légitime défense, en fait, elle appuyait par la présence d'un couteau. Angelo, il serait débattu avec un couteau. Angelo, il aurait malmené 5 hommes du GIGN avec un couteau.
Cagoulé, armé,
surentraîné. Et Angelo, tout seul, le petit gitan, c'est comme ça qu'il a été décrit dans les médias. Petit gitan, armé de son couteau, il a malmené les 5 hommes du GIGN. Ils n'avaient pas d'autre moyen pour sauver leur peau que d'abattre Angelo. Mais la vérité, c'est que dans le dossier judiciaire, on n'a jamais nié qu'Angelo avait un couteau. Il y a plein de personnes qui ont des couteaux, en fait. Et dans le dossier, en fait, Angelo, il avait un couteau, ouais, dans sa poche. Par contre, sur le couteau d'Angelo, on retrouve son ADN, mais on ne retrouve pas ses empreintes. Il y a magouille de scène de crime aussi, puisque mon frère, il tombe sur le ventre. Et en fait, dans le dossier, on nous présente le corps de mon frère retourné sur l'eau, avec son couteau dans le prolongement de son bras droit. Enfin, une histoire tellement absurde. Et comme il n'y a pas que l'affaire d'Angelo, il y a plein de morts en fait par an. Et on vit tous la même chose. C'est systématique, c'est le même cheminement qui se met en route.
Et du coup, juste pour appuyer ça, parce que bien sûr, toi, dans ton livre, tu fais vraiment la distinction entre la vérité judiciaire et ce que vous appelez la vérité, parce que dès le départ, le procureur de la République, il a parlé de vérité judiciaire, d'ailleurs. Il n'a jamais dit qu'il cherchait la vérité, mais qu'il trouverait une vérité judiciaire à ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a quand même eu une contre-expertise qui a été faite dans un bouquin, mais aussi en vidéo et de manière matérielle, qui vient prouver, enfin qui est dispo en ligne, du coup, qui a été fait par un groupe d'enquête indépendant qui s'appelle le GENI, G-E-N-I, du coup, qui prouve que la scène de crime a été maquillée. Et même si c'est trop tard pour la justice française, en fait, c'est quand même une preuve matérielle et, comment dire, sans prise de parti. En fait, il se base que sur le dossier, comme quoi ce qu'il raconte n'est pas possible. Juste pour
et ça, c'est vraiment à aller voir, parce que c'est vraiment bien ficelé. C'est la vérité, en fait. On voit les distances de tir, on voit comment Angelo y tombe, on voit leurs mensonges, puisque c'est basé sur le dossier. Et on voit que, parce que le lendemain de la mort d'Angelo, ils ont tué mon frère, nous, on n'avait pas le droit de retourner chez nous. On avait le droit de retourner chez nous que le lendemain. Parce que eux, le lendemain de la mort d'Angelo, le matin, ils ont fait une remise en situation. C'est comme ça qu'ils appellent le truc. Et en fait, c'est une magouille.
Parce que ce n'est pas une reconstitution non. officielle, machin.
On voit des images et il y a des objets qui bougent au fil des clichés. C'est une magouille de scène de crime, en fait. Pour faire simple.
Et tout à l'heure, tu as dit qu'ils avaient un permis de tuer. Est-ce que tu peux revenir juste sur... parce que c'est un truc dont tu parles beaucoup dans ton bouquin, c'est le L435-1, qui en fait a été appliqué pour la première fois dans une décision de justice, même s'il n'y a pas eu de procès, pour le cas d'Angelo, en fait. C'est lui qui a fait jurisprudence pour les histoires qui viennent ensuite.
Oui, c'est ça. Et en fait, cet article de loi, on l'a vu là ces dernières années, l'explosion des crimes d'État. Cet article de loi, en gros, il dit au bout de sommation, on a le droit de te tuer. Si tu te sauves, on a le droit de te tuer. Si on pense être en danger, nous ou un collègue, on a le droit de te tuer. Cet article de loi, en fait, il y a l'avocat des tueurs d'Angelo. Il a milité pendant pas mal d'années pour l'obtenir. Ils ont même fait des manifs cagoulés en plein Paris. Enfin, pas l'avocat, mais tout ce petit monde, quoi. Et je sais que les tueurs d'Angelo, ils ont été mis en condition pour tuer mon frère. Puisqu'ils viennent tuer Angelo le 30 mars. Et cette loi, elle prend effectif le 28 février 2017. Et les hommes du GIGN, ils reçoivent une circulaire le 17 mars. En gros, dans cette circulaire, on leur dit... dans l'article de loi L435-1, si vous avez fait usage de toutes vos armes, si vous avez, si vous pensez en danger, si au bout de deux sommations, enfin, toute une tambouille, en fait, que si demain, on se promène dans la rue, on a peur des flics, parce que ça, qui n'a pas peur de la police, eh ben, on se met à courir par instinct de survie, tout simplement. Eh ben, en fait, on a le droit de prendre une balle dans le dos. Enfin, ils ont le droit de nous mettre une balle dans le dos. Et ça me rappelle bah, l'affaire de Amin Bentounsi, en fait. Que, pareil, il était en prison, il a eu une permission, il n'est pas rentré. Il a pris une balle dans le dos. Sa sœur, elle a monté le collectif Urgence de police assassine. Et il y a eu un procès. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, on n'est même plus à vouloir une condamnation. Ça serait bien... Moi, personnellement, la condamnation, c'était pas mon but. Le but, c'est avoir un procès. Et ben maintenant, même un procès, en fait, c'est mort. Quand l'État tue, y a pas de procès. Il n'y a même pas ce petit truc de les mettre à mal de quoi que ce soit.
Et juste pour que ça soit compris, pas de procès, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décision de justice. Ça veut dire qu'il n'y a rien en public, quoi. C'est que ça. Tout se passe dans des bureaux, quoi.
Entre eux.
Et d'ailleurs, à ce propos, toi, ce que tu dis, parce que ça, c'est un truc que tu dis souvent, c'est que t'attendais rien d'un procès de toute manière. T'avais pas forcément l'envie qu'ils aillent au placard. Tout le monde ne partage pas ça dans ta famille, mais en tout cas, toi, c'est plutôt ta position. Toi, ce que tu dis, c'est plutôt que juste tu voulais les voir en face, te mentir en face comme ils ont menti dans le dossier, en fait. C'était ça, le truc, de leur dire comment vous faites encore pour vous regarder le matin dans la glace, quoi.
Bah, y a les tueurs, oui, qui viennent déjà devant mes parents et ça tenait pas debout. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était si facile aussi d'appliquer cet article de loi sur la mort d'Angelo sans procès. Et la condamnation, non, parce que qu'ils aillent en prison, en fait, j'en déduis que ça servirait à rien. Angelo, il a fait de la prison. Par contre, lui, il a tué personne, même s'il l'aurait fait. Mais la prison, ça sert à rien. Alors, on ne peut pas vouloir abolir la prison d'un côté et vouloir... Enfin, en fait, moi, je veux pas de prison. C'est un mouroir, en fait. C'est tout ce qu'il y a de plus inhumain et dégradant pour une personne, quoi. Et non, ce que je voulais, c'était vraiment un procès et que déjà, ils viennent devant mes parents et que, aux yeux de tout le monde, que l'honneur... Enfin, la vie de mon frère avale quelque chose parce que quand Angelo, il est mort, ça a été tout de suite le gitan en cavale, multirécidiviste... la légitime défense, enfin, tout un... aller chercher combien de condamnations il avait sur son casier, aller reprocher des bagarres, que alors que même la justice, elle a même pas pu attraper, enfin, demander à mon frère des comptes, même une bagarre, reprocher ça dans le dossier après sa mort à titre posthume, en fait. Avoir des reproches comme si que ça justifie la mort, qu'alors Angelo, il n'a jamais pu s'en expliquer, on l'a jamais, ils n'ont jamais eu l'occasion de lui poser la question, en fait, si lui, ce jour-là, par contre, il était peut-être en légitime défense.
Et du coup, ils ont tout fait pour salir Angelo, mais aussi pour salir toute ta famille, parce qu'en fait, ça s'est passé chez vous, sur le terrain où vous habitiez. Et du coup, il y a aussi toute ta famille, dont ton fils de 3 ans qui était sur place, qui se voit juste... qui entendent les médias faire les perroquets de la version de la police et de jamais être questionnés eux-mêmes.
Non, jamais ma famille, elle a été entendue, elle a été reçue une fois. Enfin, en fait, s'ils ont tué Angelo, et ce qui s'est passé, c'est que ma famille, ce jour-là, on n'avait pas le droit de rentrer chez nous. Par contre, ma famille, eux, fallait qu'ils aillent faire une déposition, comme si que c'était eux les criminels, pour débloquer la situation. Du coup, ils ont été emmenés. Enfin, ils ont été entendus. Mais par contre, ils n'ont pas été entendus de ce qui s'est passé. Ce jour-là, ça a été... Vous savez que votre fils, il était en cavale. Vous savez que votre fils... Hein, vous savez que votre fils...
Comme s'ils étaient complices de son évasion ou du fait qu'il n'était pas rentré en prison.
Donc, du coup, là, au bout d'un moment, mon père, ils ont arrêté. Ils ont dit, c'est bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Sinon, ils ont été reçus une fois par la juge d'instruction. Et la juge d'instruction a été nommée ailleurs. On nous a remplacés de juge. Et en fait, le premier non-lieu qu'on a eue au tribunal de Blois, c'est par une juge d'instruction qui venait juste de reprendre le dossier. En fait, elle n'a pas instruit le dossier, cette juge. Le premier non-lieu, il tombe comme ça, en suivant uniquement les réquisitions du procureur, que lui, le lendemain de la mort de mon frère, il était déjà en train de fanfaronner sur France 3 en voulant sa vérité judiciaire, en parlant de légitime défense, que Angelo il aurait attaqué 5 hommes du GIGN. Et voilà, en fait, la justice, le premier non-lieu, il n'est pas rendu par la juge qui a instruit le dossier.
Et du coup, moi, j'ai un peu l'impression que ce livre, il part du meurtre d'Angelo par le GIGN, mais il raconte aussi le comment tu fais toi pour traverser tout ça, et aussi pour dans ce livre, tu racontes aussi le fait que, en fait, c'est pas la première chose qu'ils vous font à vous, et quand tu dis vous, c'est à toi de le définir, mais en tout cas, tu rappelles très fort dans ce livre que les gens du voyage, ça veut tout et rien dire dans l'imaginaire collectif, mais qu'en tout cas, c'est des personnes montrées du doigt qui ont toujours tort. Et que du coup, votre histoire à vous, elle commence pas au meurtre d'Angelo, dans le sens où le racisme d'État et la violence d'État, elle s'abat sur vous-même avant. Et comme tu expliques aussi que c'est pas que le GIGN qui a tué Angelo, c'est aussi le système judiciaire et la prison. Parce que ça fait partie de votre histoire, en fait, de la sienne, mais aussi, du coup, de l'histoire de tous les proches, comme quand il y a une histoire d'emprisonnement.
Oui, et ça serait pas là. Ouais. Et c'est pas là le moment.
Non, moi, j'ai une question très précise. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu es rentré en prison? En fait, tu te rappelles, puisque c'est écrit dans le livre. Mais...
Oui,
il faut lire le livre.
La première fois que tu es rentré en prison, tu avais...
J'allais voir mon père.
T'avais 12 ans, 13 ans ?
Non, j'avais 10 ans.
La première fois, t'avais 6 mois.
Mais là, je m'en rappelle pas. Je sais que les seules photos de moi que j'ai quand je suis petite, c'est des photos de parloir quand j'ai 6 mois. Et tu lis ?
Vas-y, continue.
Et la première fois, je me souviens que je suis rentrée en prison, c'était pour aller voir mon père. Mon père, il avait pris 6 ans de prison, j'avais 10 ans. On nous a enlevé de lui pendant... on nous l'a pris pendant 4 ans.
On lit à deux, hein. Oui. Je commence. Quand ils me l'avaient enlevé pour le foutre en tôle, ça avait été terrible. Je n'ai plus confiance à personne depuis qu'ils me l'ont pris. Ça remonte peut-être à ça que je sois si peu sociable. Je savais bien qu'il avait fait une vraie bêtise, mais j'avais beaucoup de mal à supporter qu'il l'enferme si longtemps pour ça. Il a pris 6 ans, il a fait 4 ans plein. Quand il est sorti, j'avais 14 ans. Je n'étais déjà plus une enfant, j'ai grandi dans son absence. Ce qu'il avait emmené en prison cette fois-là, c'est un cambriolage dans une fromagerie du côté de Sambin. Ils y sont allés, lui et un copain, une nuit. L'alarme s'est déclenchée, la gendarmerie a débarqué, il y a eu une course-poursuite, les Schmitt ont tiré sur leur fourgon. Ça a crevé un pneu, mais ils ont réussi à se sauver. Mon père n'a pas cherché à se cacher. Il est revenu chez nous, il a pris le fusil et il a tiré en l'air. Sûrement pour leur dire « je vous emmerde ». Il savait très bien qu'il n'allait pas tarder à venir le chercher. Moi, je dormais. Je me suis rendu compte de rien. J'avais 10 ans à peine, mais je me rappelle du lendemain matin comme si c'était hier. Il n'y avait pas un bruit. Mon père tournait comme un lion en cage. Je voyais bien qu'il appréhendait. On a vu plusieurs fois passer un hélicoptère. Quand ma mère s'est finalement décidée à partir, j'ai demandé à rester. Mon père a dit « Si, laisse donc la gamine avec moi ». Il a continué à faire ses allers-retours dans la cour. C'était une maison sans portail dans un hameau, avec un grand champ en face et un petit chemin pour y aller. Je faisais le tour de la cour à vélo en me prenant pour une photographe. On était allé au Futuroscope avec l'école peu de temps avant, j'avais ramené un petit appareil photo en souvenir. À un moment, j'ai entendu un petit bruit dans le champ. J'ai posé mon vélo, je me suis approché un peu, mais rien à l'horizon. C'était le vent ou une bête, un bruit de la campagne. Je suis remonté sur le vélo, mon père m'a rejoint quelques minutes plus tard, on a passé le bord de la propriété, on s'est avancé sur le chemin. Tout d'un coup, en une fraction de seconde, j'ai vu une marée d'hommes en noir, cagoulés, casqués. Ils avaient tous leurs armes braquées sur mon père et ils gueulaient, les mains en l'air, bouge pas. C'était le GIGN. Il y en avait partout, accroupis dans le champ depuis je ne sais combien de temps, à quelques mètres à peine de nous. Mon père a levé les mains, ils l'ont menotté dans le dos. Après ça, on les a plus revus, c'est les gendarmes normaux qui ont pris le relais. Il a demandé à être menotté devant pour pouvoir se faire une cigarette. Ils l'ont laissé faire sa clope. Il m'a embrassé et il m'a dit en me montrant les gendarmes « Tu vas partir avec eux, ils vont t'emmener rejoindre ta mère. » J'ai bien senti qu'il avait la gorge nouée, mais je pouvais pas me douter que la prochaine fois que je le verrais, ce serait derrière des barreaux. Je suis monté avec eux. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur qu'il y avait là-dedans. Ils avaient une odeur, les gendarmes, je l'ai bien senti. Aujourd'hui, je dirais plutôt que ça sentait la République. Ils ne m'ont pas adressé un mot de toute la route. À peine arrivé à la brigade, j'ai entendu ma mère qui gueulait dans un bureau. Ils lui posaient leurs questions de merde habituelles. « Il a fait quoi cette nuit, votre mari? Vous avez mangé quoi hier soir ?» Elle « Fouille dans la poubelle si tu veux tellement le savoir, guignol. » Elle n'en avait plus rien à foutre. Quand on a finalement eu le droit de partir, on s'est retrouvé dans la mairie du village. Un immense hall avec de grands escaliers blindés de Schmitt. Il y en avait de partout. Je ne comprenais pas pourquoi. Ils avaient dû se faire tout un film. Les temps qui ont suivi, quand je voyais les grosses affaires à la télé, les moyens qu'ils y mettaient, ça ne m'impressionnait pas. J'avais déjà connu ça pour la fromagerie du Daron. Je continue ? Tu continues ? Si, c'est bien, c'est bien.
Il le connaissait depuis toujours pourtant. Il a grandi dans le coin. Il a passé toute sa jeunesse ici. C'est vrai que ça n'a jamais été une histoire d'amour entre eux et lui. Il jouait au jeu du chat et de la souris. Il avait sa petite réputation. En tout cas, il savait bien que mon père était tout sauf un terroriste. Mais entre son délit de fuite, son coup de fusil en l'air et les légendes qu'il se raconte sur les voyageurs, ils avaient quand même décidé de lui sortir le grand jeu. Le lendemain, tout le monde pouvait lire dans le journal « Un forcené délogé par le GIGN ». Puis, plus bas, dans l'article, il racontait que mon père s'était barricadé avec une fillette d'une dizaine d'années, sans jamais préciser que c'était sa fille. Quand il te taille un portrait pareil, tu sais que tu vas morfler au tribunal. Ils ne peuvent pas avoir envoyé le GIGN pour rien. Avec le recul, je me dis que ça a été un épisode traumatisant pour moi, cette bande d'hommes armés et cagoulés qui viennent prendre mon père. Ça me fout dans une rage indescriptible que 20 ans plus tard, ils osent lui envoyer une nouvelle fois le GIGN, mais cette fois pour abattre son fils, presque sous ses yeux. Il aurait pu mourir cette nuit-là quand les Schmitt ont tiré sur le fourgon, et après tout, c'est exactement ce qui est arrivé à son cousin Germain une dizaine d'années plus tôt. Il s'appelait Fernand Giraud, il a été tué dans les Hauts-de-Blois en 1984. Les gendarmes ont raconté qu'il avait foncé sur un barrage. Mais à la première marche pour Angelo, sa sœur, qui n'avait jamais parlé en public de cette histoire, a expliqué au micro comment ça s'était vraiment passé. Zinda, elle pleurait, comme si c'était arrivé hier. Fernand était sur le siège passager, un de ses frères conduisait le fourgon. Ils étaient allés chouraver des métaux dans une casse. Alors qu'ils approchaient du barrage, ça a tiré depuis un J9 de la gendarmerie. Fernand a pris une balle en pleine tête. Le tueur a raconté que le coup était parti par accident. En pleine tête, un accident. Fernand est mort pour 3 bouts de ferraille. Il était si jeune encore. Son frère, lui, ils l'ont envoyé au Shtar pour avoir soi-disant forcé le barrage. C'est quasiment la même histoire que celle de la mort de Luigi qui a déclenché les émeutes de Saint-Aignan des années plus tard. Depuis toute petite, je sais ce qui est arrivé à Fernand. J'étais en colère contre les Schmitt bien avant la mort d'Angelo. Pardon.
Peut-être tu peux expliquer Luigi ? D'autant que le procureur, il en parle en fait directement dès qu'ils ont tué Angelo en fait.
Ouais, parce que quand ils tuent Angelo, mes parents, enfin ma famille vont faire leur déposition. Le procureur arrive après, il se tape dans les mains et il dit à ma famille toutes mes condoléances. Je vous annonce le décès de Garangelo. Par ailleurs, j'espère que ça ne fera pas, comme en 2010, les débordements. 2010, les débordements, c'est la mort de Luigi Duquenet, un père de famille qui a été tué par un gendarme à Thésée. Ouais. Et du coup... Les gens sont révoltés, mais ils appellent les émeutes et ça a fait du bruit, en fait, parce que Blois, Saint-Aignan, c'est la campagne.
C'est dans le même coin, vraiment.
Ouais, c'est vraiment dans le même coin. Et les gens sont révoltés, naturellement. Et ça a fait beaucoup de bruit aux infos, mais ça a fait du bruit sur les révoltes. Ça n'a pas fait de bruit sur la mort de Luigi. Et puisque le procureur... parle de ça à ma famille, enfin, les met en garde, en gros. C'est vraiment comme une mise en garde. J'espère qu'il n'y aura pas de débordement. C'est là que, dans ma tête, en fait, je me dis, c'est tout ce qu'ils attendent. C'est tout ce qu'ils attendent. Et en fait, les débordements de Luigi, Ça n'a pas servi à rien dans la mort d'Angelo. Parce que les débordements pour la mort de Luigi, ça m'a fait prendre conscience qu'on peut faire ça. Et du coup, on peut aussi faire autre chose. Puisque on a vu aussi les quarts de CRS en train de se mettre en place dès la première soirée. En fait, ils attendaient vraiment que ça pète et de criminaliser en fait la victime encore une fois. Et pour que ça passe à l'as, pour que ça soit... pour que les gens... Parce qu'en fait, en 2010, moi, je n'étais pas vraiment dans ce coin-là, mais je revenais voir ma famille. Et vous savez, quand j'allais aux courses, à la pharmacie ou peu importe, j'étais regardée. J'avais peur du regard des gens, tellement que les gens me regardaient comme si on avait fait quelque chose. Comme si qu'il y avait de la peur. Il y a de la peur, de la haine. En fait, les gens, les citoyens normaux, ils avaient peur, ils étaient en colère. Et ce n'est pas le but, en fait. Même les émeutes, enfin, les révoltes, j'y étais pas. Mais quand on perd quelqu'un, on est obligé de se révolter, quelle que soit la manière. Et le procureur, lui, le jour de la mort d'Angelo, tout de suite, il fait référence à ça. Et en fait, c'est là, à mon avis, que tout de suite, il a voulu sa vérité judiciaire. Pour dire, vous voyez ces gens-là. Parce que c'était comme ça, quand il y a eu les révoltes pour Luigi. On n'avait rien fait, entre personnes lambda, on ne se devait rien. Mais on sentait bien le regard de ces gens-là.
Et il y a des gens qui sont allés en prison à cause de ces révoltes, d'ailleurs. Oui. Le cousin de Luigi est parti en prison, comme on l'a dit. Et les Schmitt, pas du tout, évidemment, comme d'hab. Hein.
Non, il n'y a rien eu.
Après, t'as un rapport ambigu à cette histoire de révolte et pas révolte. Hein. C'est pas que t'es contre les émeutes, hein. C'est pas ça l'histoire. C'est plutôt que tu t'es dit, vu qui on est, vu où on est, si c'est ça qui se passe et rien d'autre, il se passera jamais rien pour nous, en fait. On attend juste que vous foutiez la merde et que vous vous taisiez, quoi. En
gros. Si même au niveau justice, il s'est rien passé de plus, puisqu'on est au même point, on n'a pas eu justice. Mais c'est que... fallait pas que les gens y pensent à nous. Parce qu'on veut nous faire croire que les gens y croyaient, les gens du voyage. Hein. Mais non. Regardez, 6 ans après, on a écrit un livre, on a fait des choses, il y a eu la contre-enquête du génie. Les gens, ils écoutent, les gens, ils comprennent, les gens, ils pleurent, les gens, ils soutiennent. Les gens, ils n'ont pas connu Angelo, mais ils aiment Angelo. Et en fait, c'est là aussi où ils ne nous attendaient pas. Parce qu'à la mort d'Angelo, quand j'ai vu, c'est de là que ça me ramène à la mort. Angelo meurt, ça me ramène à la mort d'Luigi. Et là, je me dis... on va aller où ils ne nous attendent pas. Et pourtant, en fait, les révoltes, j'ai rien contre. Au contraire, la lutte pour Angelo, elle ne serait pas ce qu'elle serait, comme elle l'est, en fait, s'il n'y aurait pas eu les révoltes pour Luigi en 2010.
Et j'ai l'impression qu'elle ne serait pas non plus ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui si tu n'avais pas rencontré aussi d'autres familles qui avaient décidé de se battre. Et qui ne sont pas forcément des familles de voyageurs du tout. Est-ce que tu veux un peu expliquer ça ?
Oui, bah c'est le racisme d'État, en fait. Hein. Quand on voit les tués par la police, l'État, la prison, et en fait, on s'aperçoit que c'est toujours des gens racisés ou de classe moyenne. Bah, pauvres, oui. Les gens pauvres. C'est toujours les mêmes. C'est toujours sur les mêmes qu'on tape sur la gueule et c'est toujours les mêmes qui perdent la vie. Depuis, dès la mort d'Angelo, en fait, il y a des sœurs de victimes qui ont été là, qui sont toujours là, qui se battent et qui continuent et qu'on continuera ensemble. Il y a des réseaux de familles de victimes. Parce qu'on a besoin des uns des autres. En fait, dans le fond, je me dis, là, aujourd'hui, on a besoin les uns des autres. On pourrait continuer notre vie, nous, banale. Hein. On a perdu nos frères. Mais on ne veut pas que ça se reproduise, en fait. Moi, j'aimerais que, en fait, quand on parle des familles de victimes, que vous voyez ça pas comme une plainte, mais comme une main tendue, plutôt. Pour pas que vous soyez touchés à ça, parce que le jour où on entend des histoires comme ça, mais le jour où ça touche ta propre chair, c'est pire, en fait. Moi, la mort d'Angelo, j'aurais préféré qu'on me tue moi, en fait, qu'on tue mon frère. Maintenant, On est tous, avec les sœurs, on a des façons de vivre différentes, des origines différentes, des religions différentes, peu importe. Mais en tous les cas, on porte une chose qui a une force, qui, c'est grâce à ça, moi, que je vis aujourd'hui. C'est grâce au soutien des autres familles, c'est grâce à l'écoute. C'est de se dire on n'est pas tout seul ou c'est normal d'avoir une réaction comme ci ou comme ça. Et en fait, nous, on n'est pas dans le jugement. On est là pour tendre la main et pour que les choses changent simplement, en fait.
Et après, un truc que vous rappelez toutes, et vous êtes aussi souvent les mamans ou les sœurs des victimes, c'est que... En fait, en tuant votre proche, elles n'ont pas fait du mal qu'à cette personne et elles n'ont pas enlevé la vie qu'à cette personne. Elles ont transformé toutes vos vies, en fait. Et que, pour moi, dans ce livre, tu expliques aussi comment continuer d'élever tes enfants, c'est une lutte, en fait. C'est aussi toutes ces questions-là que tu abordes dans ce livre en expliquant comment toi tu fais pour continuer à vivre en ayant dû traverser ça. Parce qu'on explique comment des enfants, en fait, que... C'est injuste, en fait.
C'est leur expliquer ça, ils l'ont vécu, mais les enfants le vivent, en fait, à travers la famille, parce qu'ils tuent une personne. Mais en fait, ils anéantissent, ils massacrent une famille entière qui est condamnée à vivre avec ça. Et pour vivre, en fait, les enfants, ça fait partie de la vie. Il faut élever ses enfants. Mais comment élever ses enfants ? Pas dans le mal, pas dans la haine. Dans le livre, en fait, j'amène aussi cette question-là. On nous a fait ça, mais nous, on ne veut pas devenir des monstres. Et en même temps, on n'a pas envie de devenir des monstres, mais en même temps, c'est un peu une piqûre de rappel à l'état de tout ce qu'ils nous ont fait subir. Parce qu'on nous anéantit du jour au lendemain et on nous laisse comme ça. Nous, demain, on peut devenir un monstre, en fait. Demain, à tout moment, mais ça, on n'a pas envie de ça, nous, les familles, on lutte. On n'a vraiment pas envie de ça. Et comment on élève ses enfants ? Sans la haine. Parce que, je le dis dans le livre, en fait, moi, le jour de l'enterrement de mon frère, je me rends compte qu'en fait, la mois d'avant, elle est morte, en fait. Je suis déjà partie ailleurs, je suis déjà partie dans des pensées, je suis déjà partie qu'il faut faire quelque chose, qu'il ne faut pas que ça reste impuni. Et comment on élève ses enfants ? Et ben, moi, j'ai trouvé le moyen de la lutte, en fait. Que mes enfants, ils sachent que la population, elle ne pense pas comme la République, elle ne pense pas comme la justice. Il faut garder ce cap-là, je pense. De dire à ses enfants, tout le monde n'est pas l'État. Les gens ne sont pas l'État. Et grâce à travers la lutte, à travers les rencontres avec les gens, les enfants, ils apprennent et ils comprennent aussi pourquoi c'est important de lutter. Parce qu'on rencontre des gens et en fait, toujours, on nous a toujours dit, vous les minorités, mais demain, en fait, on est là. Enfin, ou même aujourd'hui, si on veut, on est une majorité face à cette violence, face à cette haine, en fait.
Du coup, juste parce que si vous n'avez pas encore lu ce livre, et pour comprendre cet extrait, il faut savoir que du coup, le plus jeune fils d'Aurélie, il était là donc quand le GIGN il est intervenu. Et ce qui s'est passé, c'est que... Il était tout petit, il avait sa tétine dans la bouche et il a eu tellement peur qu'il a brisé la tétine en deux dans sa bouche quand ça a tiré. Maintenant, je peux lire parce que vous allez comprendre. Depuis ce jour où il a cassé sa tétine, il a toujours eu peur des gendarmes. Il est plus marqué que les deux grands parce qu'il était là. Il les a entendus gueuler, il les a vus braquer ses gens, il a entendu les coups de feu à quelques mètres de lui. Une fois, en voiture, il était encore petit, on les a croisés qui contrôlaient un carrefour. Il m'a dit à moitié paniqué « Attention, maman, il y a les Schmitt, ils vont nous tuer encore. » Mes trois gamins, à chaque fois qu'ils voient des uniformes, ça leur fait une palpitation au cœur. Ils ont peur d'eux, mais ils ont aussi peur de mes réactions. Le plus grand, surtout, dans les premiers temps. « Je t'en supplie, ma mère, si on se fait arrêter, parle pas du tonton, dis-leur rien. » Quand il y a un contrôle routier ou que les voitures d'en face nous font des appels de phare, je leur demande toujours de se tenir prêts. Et de leur côté, ils espèrent que je l'ouvre pas trop. C'est encore des enfants, mais ils ont compris que ça pouvait vite dégénérer. Ils savent que devant un Schmitt, tu n'es jamais vraiment en sécurité. Il y a 2 ou 3 ans, on m'a arrêté pour un petit excès de vitesse. Mon deuxième fils avait mis sa ceinture, pour une fois. Pendant que son collègue remplissait l'amende, un Schmitt lui a dit « C'est bien, bonhomme, tu t'es attaché. Par contre, tu t'es mis au milieu. Ça serait mieux que tu te mettes à la bonne place. » Jusque-là, je fermais ma gueule, même si ça me démangeait parce que j'ai le plus grand mal à me retrouver face à un gendarme sans lui parler de mon frère. Mais là, c'était trop. Écoutez, vous mettez ce que vous voulez pour excès de vitesse. Par contre, des morales de sécurité à mon fils, là, je suis pas d'accord. Il s'est excusé, mais il m'avait trop énervé. J'ai fumé une clope, ils étaient encore à la jumelle, alors je suis retournée les voir. J'ai une question à vous poser. Je vous vois sur le bord de la route à vous emmerder. On ne fait pas tous ces entraînements pour se retrouver à faire ça de sa vie quand même. Non, c'est vrai que c'est pas l'ambition première. Par contre, les perquisitions chez les gens du voyage, ça vous aimez, hein ? Vous savez pas exactement combien on est, qui est où, dans quelle caravane. C'est la sortie exotique, le petit shoot d'adrénaline, non ? Ils ont reconnu que ça faisait partie des trucs excitants de la profession. Ils venaient d'arriver dans le coin, mais le nom, l'adresse, ça avait dû leur faire tilt. Je me suis mise à leur parler de l'exécution d'Angelo. Et il y en a un qui a fini par me dire « J'admets que votre frère n'aurait jamais dû mourir comme ça ». Ça lui a pas coûté grand-chose, mais c'était déjà ça. J'ai continué en gardant mon sang-froid. C'est pas contre le bonhomme en particulier que j'en ai, mais votre uniforme, je peux pas me le sentir. Tout ce que je viens de vous raconter sur mon frère au fond de vous-même, vous le savez bien. C'est ça qu'on appelle la conscience. Vous n'êtes pas innocent. Ouais, d'accord. En partant, je le regardais dans le rétro. Ils étaient tous en train de mater leur pompe. Ils n'ont pas retiré l'amende, bien sûr. Rien à foutre. Ils devaient être bien dégoûtés en remballant leur pauvre radar à la fin de la matinée. On doit leur rappeler quel métier de mort ils font. On doit leur foutre dans la gueule à chaque fois qu'on peut, en essayant de garder son calme, même si c'est pas toujours mon forme. Des gendarmes du coin m'ont déjà dit « C'est pas nous pour ton frère. Je le sais bien que c'est pas toi personnellement, Guignol, mais ça revient au même, vous êtes tous au courant de ce qui se passe. Et il n'y a jamais personne qui l'ouvre. » Est-ce que vous avez des questions à poser ? Sinon, nous, on peut continuer, mais je ne sais pas si vous avez des questions à poser.
Je vais pas poser la question.
Bon, moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous parler d'Awagay, s'il te plaît ? Parce qu'en fait, il y a des nouvelles récentes. Donc, je veux bien que tu rappelles la rencontre, comment vous êtes captés, et puis qu'est-ce qui se passe pour elle, en fait ?
Awa, c'est la sœur de Babacar Gaye. Babacar, il a été tué en décembre 2015 à Rennes. Babacar, il était venu en France pour être avec sa sœur, vivre une vie normale. Et Babacar, en décembre 2015, il est chez un ami et il a apparemment une crise de démence et il prend un couteau de table et il veut se faire du mal à lui-même, Babacar. Et son copain appelle les pompiers, mais dans les quartiers, c'est la BAC qui arrive en premier. Babacar, on a une histoire... Enfin, l'histoire de Babacar... Babacar, il n'avait rien à voir avec Angelo à la base. Mais la mise à mort dans Babacar et d'Angelo, quand on les met côte à côte, bah, en fait, c'est la preuve mortuaire en fait, d'un racisme d'État. Babacar, il y avait 8 policiers. Babacar, il a pris 5 balles, comme Angelo. Babacar, il a été menotté dans le dos après sa mort, comme Angelo. Depuis 7 ans, il avait un couteau comme Angelo. Voilà, parce que ça repose aussi sur la légitime défense et l'attaque au couteau. Et depuis 7 ans, Awa, sa sœur, quand je l'ai connue, Awa ne parlait pas très bien français. Elle était trop complexée par rapport à ça. Mais Awa, c'est une guerrière. Awa, elle est forte. Awa s'est battue pendant 7 ans. Et hier, Awa apprend le premier non-lieu dans la gueule de la part de la justice, dans le journal local, alors que son avocat n'a même pas été notifié, ni elle, ni son avocat. Ils ont pris le premier non-lieu par la presse. Et comme pour Angelo, on nous avait fait ça aussi avec les réquisitions du procureur, qu'elle est sur un non-lieu. Mais il a fallu 7 ans. Awa, elle est forte, Awa. Awa, elle a demandé des contre-expertises pour prouver qu'il y a une balle qui vient percuter Babacar de la fesse gauche. Il ne peut pas y avoir de légitime défense quand on tire une balle du côté. Voilà. Il ne peut pas y avoir de légitime défense. Pour Babacar aussi, la justice qu'elle a fait, elle a détruit l'arme du crime. Par erreur, c'était sous scellé. L'arme qu'a tué Babacar, elle était sous scellé. Et dans le tribunal, ils ont fait disparaître. Ils ont pris les scellés. Ils ont fait disparaître les scellés.
Ils ont dit que c'était détruit par erreur.
Détruit par erreur, en fait. Et aujourd'hui, depuis hier, j'ai une pensée forte pour Hawa et Babacar. Mais je sais, Hawa, elle est forte. Hawa va continuer. Et peut-être que Hawa n'aura pas justice en France. Mais Hawa, elle a la vérité. Et elle avoue les soutiens. Et ça, c'est ça la plus belle des forces. Parce que moi, ça fait 6 ans maintenant, c'est bon, j'ai fait le deuil d'avoir un procès. Je m'en fous, en fait, d'avoir un procès. C'est pas grave. En fait, j'ai pas perdu. J'ai sûrement pas perdu face à la justice. Parce qu'on a la vérité. Et c'est ça, en fait. C'est ça, la vraie justice. La vraie justice, c'est d'avoir vérité. Parce que si on aurait un procès, ça serait pour raconter tous leurs mensonges. Ou pour encore salir. Pour encore, encore appeler les syndicats de flics et les voir en masse. Et c'est pas la peine. C'est pas la peine. Le combat, c'est la vérité. Et faut pas oublier Babacar, et Hawa va continuer. Et j'espère que quand même, elle fera appel. Et si elle n'a pas justice, s'il n'y a pas de procès pour Babacar, et même sans procès, et Hawa va continuer pour Babacar. Et pour vous aussi, parce que c'est encore ça, c'est continuer pour pas que ça se reproduise.
Oui, et puis aussi pour qu'on les oublie pas, en fait. Parce que c'était des gens, enfin, ils avaient le droit d'être là. Moi, je me permets de rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un truc que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont un peu du mal à comprendre. Enfin, ce truc de, par exemple, toi, tu dis « je vois pas d'intérêt à mettre des personnes en prison ». Même les assassins de mon frère. Mais par contre, j'aurais voulu avoir un procès. Et c'est vrai que c'est le cas de presque tout le monde. Tout le monde voudrait un procès. Mais c'est vrai qu'une des réalités, c'est aussi que tout le monde en voudrait un parce qu'il n'y en a pas. Enfin, et que du coup, on ne sait pas ce qui se passerait s'il y avait des procès. Mais ça ne veut pas dire qu'un procès, ça ne serait pas pour autant ultra violent et très, très difficile à vivre pour la famille des personnes endeuillées qui sont pourtant les victimes, en fait. Et que c'est une des réalités, c'est que ça arrive tellement jamais ou presque. Enfin, le cas de Amine Bentounsi, c'est quand même un cas d'école. Il y en a presque jamais eu d'autres. En tout cas, les 20-30 dernières années, je ne crois pas. Et en fait, tout le monde se bat pour avoir un procès parce qu'en fait, c'est juste une manière de dire on est des gens comme les autres, on a le droit d'être traités comme tout le monde, en fait.
C'est pour ça que je ne me considère pas, avec le temps, avec le recul, je ne me considère pas comme avoir perdu face à la justice. Parce qu'on a vu même les mutilés. On a vu les procès l'année passée, des mutilés. Les mutilés, c'est qui ? Les mutilés, il y en a eu pendant la loi travail en 2016. Et il y en a eu beaucoup pendant les Gilets jaunes. Il y a eu un collectif qui s'est monté, ça s'appelle les mutilés pour l'exemple.
Et leur dernière marche, c'était à Toulouse, il n'y a pas longtemps ici, en plus.
Et depuis, c'est comme une mort, en fait. Hein. C'est comme nous, ce qu'on a vécu avec la mort de nos proches. La chose, c'est la même, c'est la violence d'État, c'est le mensonge judiciaire. Et c'est la lutte qui permet de tenir. Et pendant ces procès, les quelques procès qu'il y a eu, parce que tout le monde n'a pas eu procès non plus, les quelques procès qu'il y a eu, on a vu que c'était vraiment du mépris total envers les victimes, toujours à plaindre des Schmitt. Et en même temps, quand il y a un procès comme ça, bon, condamnation, pas condamnation, quand il y a un procès, franchement, c'est le rendez-vous qu'il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on voit le fonctionnement de la justice, parce qu'on tape beaucoup sur... on tape sur ce qui a tapé, sur ce qui nous tape, sur ce qui nous tue, c'est-à-dire les flics. Mais la justice, si la justice ferait un procès à chaque tueur, à chaque éborgneur, à chaque assassin, mutilateur ou tout ce qu'on veut, petite merde de la République, je pense que, en fait, ils auraient la gâchette moins facile, la matraque, Et mais en fait, on voit aussi que ça, c'est une question, bah, c'est politique, hein, parce que toutes ces affaires-là, c'est comme les morts. Voilà, on en revient à ça aussi. Voilà, quand on a des coupures, enfin, il y a des articles de journaux. Quand nos proches sont tués, c'est dans les faits divers. Mais la mort d'un homme par la force de l'État, c'est pas un fait divers, ça s'appelle un fait politique. Et à partir du moment où c'est que c'est bien huilé avec la machine judiciaire, et en fait, on sait très bien que derrière, c'est quoi ? Bah, c'est le gouvernement qui appuie là-dessus, en fait. C'est eux les premiers responsables. C'est pour ça, d'être à la CEDH, franchement, j'ai été mal, je l'ai mal pris. Mais d'être à la CEDH, c'est ce qu'il faut, parce que c'est l'État qui est responsable, en fait.
Et du coup, la CEDH, c'est quand t'as tout... en gros, quand t'as écoulé toutes tes voies juridiques en France, c'est la seule manière de faire accuser la France, mais du coup, plus les personnes, mais la France en tant qu'État, pour... du coup, c'est quoi ? C'est non-respect à la vie ?
Violation du droit à la vie.
Ouais. Et qui est quelque chose qui a déjà été gagné par certaines familles.
Ouais.
Et quand tu dis que ça te dégoûtait d'aller jusque-là, pourquoi ?
Parce qu'arrivé à ça, en fait, on nous présente... Alors, nous, on dépose une requête, soit elle est admise ou pas admise. Ça, c'est possible aussi. Il y a des requêtes qui ne sont pas admises à la CEDH. Nous, elle a été admise. Et à partir de ce moment-là, déjà, on voit la tournure du truc. C'est de la procédure, c'est du papier, c'est du blablabla. Alors là, en fait, à l'heure actuelle, nous, les familles de victimes qui sont à la CEDH, on est rentrés en négociation avec l'État. Mais bon, c'est la procédure, c'est le dernier recours judiciaire auquel on peut aller, donc on y va. Et au final, c'est qui est responsable des morts, qui est responsable de la violence, des mains arrachées, des éborgnés ? Eh bien, c'est l'État, en fait. Et en fait, ça me dégoûtait d'aller jusqu'à la... Enfin, j'y aurais été, quoi qu'il en soit, mais j'ai eu du... Je l'ai fait, mais le cœur serré.
Ouais, quand t'as rencontré, t'étais pas sûr.
Ouais. J'étais, ouais, parce que rentrer en négociation avec l'État, j'adhère pas du tout au principe à partir de l'État, ce qu'ils nous ont fait. Mais en même temps, je fais abstraction de la négociation, je m'en fous. Ce qui me dégoûtait dans tout ça, c'est qu'au pire, enfin, à la meilleure des cas, parce que c'est même pas gagné, la violation du droit à la vie, malgré 5 balles visées dans les organes vitaux d'un homme, c'est même pas gagné. Et si c'est gagné, ça sera bah, une phrase et ça sera une reconnaissance aux yeux de la société. C'est ça qui m'importe. Et l'État sera condamné à verser peut-être une somme d'argent à la famille. Quoi.
Une amende, quoi.
Voilà, une amende.
Et encore une fois, ça sera reconnu que les forces d'État françaises, que ce soit la pénitentiaire, la police, etc., se permettent de tuer des gens impunément, tranquillement.
Bon, ça fera une affaire de plus parmi d'autres, mais ça fera quand même une affaire de plus, si jamais. Là, ça fait... ça va aller sur 3 ans maintenant qu'on a la CEDH. On attend toujours. Enfin, on attend. J'attends rien, mais là, je vois que le temps, je sais pas, je le sentirais bien. Mais en même temps, je suis pas à l'abri que... bah non, circuler, il n'y a rien à voir. L'État, il a agi en droit. Parce que, en fait, quand on reçoit déjà le premier non-lieu... On fait appel de la décision, on prend deuxième non-lieu. Après, la procédure, c'est d'aller à la Cour de cassation. On va à la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation, au niveau... Enfin, c'est du judiciaire. La Cour de cassation, elle ne va pas les regarder aux faits, en fait. Elle va juger sur la forme. Est-ce que la loi française a bien été utilisée ? C'est uniquement ça. Déjà, arrive à la Cour de cassation, la mort d'Angelo... La façon de la mise à mort d'Angelo, elle n'a aucune importance pour les personnes. C'est uniquement comment le droit il a été utilisé. Et en cours de cassation, en fait, on nous a non admis notre pourvoi en cassation. Ils n'ont pas accepté de juger que l'État français il avait bien appliqué la loi. Ils ont non admis. Parce que s'ils auraient admis, ils auraient été obligés d'examiner. Et s'ils examinaient, il aurait fallu motiver le rejet. Et comment motiver un rejet quand un homme, il a été visé ? Parce que Angelo, il a pris 5 balles dans le torse, mais ils l'ont visé, quoi. Ils ont mis les viseurs. Il avait des lamproues sur lui, mon frère. Et ils ont visé. Donc, il y a volonté de tuer, en fait, dans le cœur, les poumons, le foie et rein. Ça, ouais, c'est une exécution, en fait. J'ai jamais trouvé d'autre mot plus vrai que ça. Et même si Angelo, ça serait pas mon frère, quand on regarde une scène comme ça, quand on regarde comment le droit français il a été appliqué, bah c'est complètement dégueulasse. On nous vend du flan avec leur abolition de la peine de mort, le droit à la vie pour tous, il n'y a pas de discrimination, tout le monde a le droit à la parole, enfin, c'est que du flan. Ça ne tient pas la route. Oui. Parce que oui, Angelo, il est mort, il avait un t-shirt sur lui. Enfin, il est rentré, tout le monde l'a vu, je connais, on connaît tous. Il avait un débardeur, en fait, il était frileux, Angelo. C'était pas du genre à se promener torse nu. Mais ça fait toujours bien les gitans qui se promènent torse nu. Il manquait plus que le petit bandana, franchement, dans leur délire. Ouais, et la guitare, mais bon. Et du coup, Angelo, on sait, Angelo, il rentre avec ce t-shirt. Mais il y a les coups de feu. Il y a ma famille devant la remise, agenouillée, menottée dans le dos, mitraillette sous la tempe. Et là, ils voient deux hommes du GIGN, enfin trois, un qui fait le blessé, deux qui le tiennent. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait mon neveu au portail, ils ont passé le portail, il s'est remis bien, ils étaient en train de parler entre eux. C'était vraiment du flan. Et on nous sert le dossier d'Angelo. En fait, le corps de mon frère, on le retrouve torse nu. Voilà, on retrouve le corps de mon frère torse nu et eux, tout le long de leur déposition et de leur dire, ils ont toujours dit, l'homme était surexcité, torse nu, agitant son couteau. C'était vraiment le cliché total. C'est aussi pour ça qu'il y a un chapitre, c'est l'étiquette, et c'est bien l'étiquette. C'est comme ça, en fait, Angelo, il est mort à cause de la discrimination de l'État, à cause d'une étiquette. Et par rapport à la loi, ouais, le t-shirt, pourquoi il a disparu ? 6 ans après, toute la vérité, c'est le seul truc que j'ai pas la réponse. Pourquoi le t-shirt, il a disparu ? On sait pas. On sait pas. On a toujours pensé que c'était par rapport au coup de taser. Peut-être qu'ils auraient tiré des coups de taser après, mais grâce au travail génial du génie, non, c'est pas ça. On sait pas.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est encore une manière de maquiller une scène de crime et que sur les photos les photos de la légale, quoi, de la photo, les photos qu'ils font à l'autopsie, etc., il n'a pas de t-shirt. Enfin, il est encore habillé, il n'a pas de t-shirt. C'est comme si ça avait eu lieu de la manière dont le raconte le GIGN, quoi.
Il n'y a aucune trace du t-shirt, nulle part. Même eux, personne n'en parle. Il n'y a que ma famille, dès le départ... Angelo, il avait un maillot. Enfin, Angelo, il n'était pas torse nu, c'est complètement faux. Mais ils ont enlevé, en fait, ma famille ont vu passer en faisant le blessé. Et il y en a un, il est sorti avec un chiffon plein de sang. Mais on a eu accès au dossier 1 mois et 10 jours après la mort d'Angelo. Mais pendant ces 1 mois et 10 jours, mon père, il faisait que de se poser la question. Qu'est-ce que c'était le chiffon plein de sang ? Qu'est-ce que c'était le chiffon plein de sang ? Et quand j'ai ouvert le dossier, j'ai compris ce que c'était, le chiffon plein de sang.
On avait prévu ça. Ouais, c'est ça. Bah moi, je propose de lire encore un petit bout du livre de Aurélie, parce qu'il y a un endroit très joli. Enfin, moi, je trouve ça trop beau que tu dises que en fait, la lutte, c'est rencontrer des gens. J'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, ce livre, il raconte un peu ça, parce que... Enfin, c'est aussi des rencontres et des personnes qu'on croise et avec qui on arrive à faire des alliances. Et j'ai peur de faire une connerie parce que je sais qu'il faut que je lise un petit bout et après, le bout d'après. Parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas quand même vous lire le livre en entier. Ma première rencontre avec Raymond Gurem, c'était à la première marche pour Angelo. Il est venu jusqu'à Blois alors qu'on ne se connaissait pas. Un petit homme. Tout frêle, mais qui dégageait une force incroyable. Quand il a pris le micro, il a raconté. Je m'en rappelle, moi, du gamin. Je me rappelle de lui à 17 ans avec sa mobilette. Il passait des fois chez mon fils à Contres. Une fois où les Schmitt s'étaient pointés chez lui, il y en a un qui a regardé Angelo à un moment et lui a dit « Toi, un de ces jours, on te mettra une balle dans la tête. » Sur le coup, on a pensé « Il divague, l'homme !» Mais on a croisé nos souvenirs et à l'époque, on habitait tout près de chez le fils Gurem. Angelo y allait bien de temps en temps pour faire de la mobilette, de la mécanique. Elle devait être vraie, son histoire à Raymond. Ah, je suis trop forte. Attends. Raymond s'est battu une grande partie de sa vie pour faire savoir le traitement réservé aux voyageurs pendant la guerre et pour que la France reconnaisse ses responsabilités. Dommage qu'il n'ait pas été plus écouté, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Sa parole, son vécu, c'était des trésors. Il avait le combat dans le sang. C'était un résistant, un vrai résistant, qui n'épargnait rien ni personne. Ça aurait été la révolution depuis longtemps s'il n'y avait eu que des voyageurs comme lui. Il est venu à plusieurs marches pour Angelo et j'ai participé à quelques événements et discussions avec lui. J'adorais cet homme. C'était mon rayon de soleil à chaque fois que je le voyais. La dernière, c'était à Paris, peu de temps avant sa mort, en mai 2020. On avait rendez-vous pour tourner dans un documentaire. Le petit Raymond m'attendait, sa clope au bec comme d'habitude. « Viens, je t'accompagne. » C'était un homme âgé et affaibli. Alors je lui ai demandé « Ça va aller pour marcher ?» Lui « Ouais, ouais, t'occupe pas. » Et il m'a enchaîné tout de suite. « Tu les épargnes pas, les morts. Eux, ils nous ont pas épargnés. Faut rien leur épargner. C'est des chiens, c'est des galeux. Je sais que toi, tu les lâcheras pas. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais si toi, fille, tu le fais pas, personne le fera. Faut avoir peur de rien. Et surtout, c'est pas la peine d'écouter Pierre, Paul, Jacques. N'écoute pas ce que les gens disent. » Ça m'a rappelé une fois avec mon père, pas longtemps après la mort d'Angelo. Viens là, écoute-moi bien. Je me suis demandé ce que j'avais bien pu faire. Tu vois là ce que tu fais pour ton frère ? Il n'y a personne qui a quelque chose à te dire. Tu fais ce que toi, tu veux. Ils ont raison, les vieux. J'écoute plus les autres. Et je me dis que j'ai quand même été à bonne école. Et du coup, Raymond Gurem, il a écrit notamment un livre, si vous voulez, qui est pas mal. Et il y a un super docu aussi sur lui qui s'appelle Ils ont eu la graisse, ils n'auront pas
ma peau.
La peau, un truc.
Ils ont eu ma graisse, ils n'auront pas ma peau.
Raymond, il avait 14 ans quand il y a eu le début de la guerre. Il a perdu toute sa famille, il s'est évadé dans les camps.
Lui, c'est un
four. Ouais. Un cirque. Enfin, il faisait le clown, il me racontait ça quand il était petit. Il était destiné à être le clown de la famille. Et du coup, il y a eu la guerre et sa famille a été enfermée dans les camps, lui aussi. Il s'est évadé plusieurs fois. Il a retrouvé sa famille des années après Raymond. Et Raymond, depuis, il n'a jamais lâché. Il a été une source d'inspiration, de courage et d'amour aussi, et de rigolade. Parce que malgré toute la misère qu'il a eue, Raymond, qu'il a vue, eh ben, il a combattu et il nous a donné beaucoup de force. Beaucoup de force. Et Raymond, quand il s'évadait, il allait voler, c'était un voleur, mais il allait voler pour donner à manger aux autres dans les camps. Sacré bonhomme.
Je ne sais pas si vous avez raconté pendant que je fumais une clope, mais oui. Il y a un truc que tu dis dans le bouquin et que qu'on a appris en discutant avec toi, c'est que en fait l'État français a commencé à enfermer les nomades, ce qu'ils appelaient les nomades, bien avant que l'État allemand décide de le faire et de supprimer l'intégralité de la population tzigane. Je crois qu'eux ils appelaient ça les tziganeurs chez eux. Je crois qu'ils en ont tué 85 ou 90% de ceux qu'ils avaient reconnus sur leur territoire. Et l'État français en fait un an avant. Commence déjà en fait à enfermer les nomades dans des camps, quoi. Voilà.
La libération aussi en fait, elle s'est fait un an après en fait pour eux.
Ils ont fait un an avant et un an après.
En ouais. Fait. Et pendant que tout le monde fêtait la libération, et ben eux ils étaient encore enfermés dans les camps. L'État français les a libérés que un an après. Ça, il y a pas longtemps, en fait, y a pas longtemps qu'il n'y en a plus de ça. Sinon, pour des populations françaises, en fait, c'est un traçage d'une catégorie particulière pour savoir où il est, quand. Et en même temps, ça servait beaucoup à la police et à la justice. Hein, si une personne était recherchée ou si on avait quelque chose à demander à un tel... on savait où le trouver. Ou même s'il y avait quelque chose de fait là et que ce n'est pas cette personne-là, suffit qu'elle était dans le collimateur. Tu as signé ton carnet à tel machin, vas-y, c'est tout. Enfin, tu colles au profil, c'est peut-être toi. pense que c'était pas le mot de la fin.
Bah, c'est pas, moi, je sais que
pas comme
fois,
ça.
C'est du silence pour qu'il y ait des questions.
S'il n'y a pas de questions, peut-être on peut se lever et sortir de ce dispositif un peu formel, là, si vous voulez. Enfin, merci beaucoup vraiment à tous les trois. Merci beaucoup, Manu. Merci aux éditions du Bout de la Ville. Et merci beaucoup, Aurélie, pour ton témoignage. C'est super précieux.
C'était Rencontre avec Aurélie Garand autour de son livre Depuis qu'ils nous ont fait ça, paru aux éditions du Bout de la Ville.
Radio Livre d'Armand.